Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors cet été, dans Histoire de savoir, sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, dans Histoire de savoir, donc vous allez pouvoir retrouver des podcasts qui ont été réalisés par des étudiants et des étudiantes en éducation spécialisée de la H2B de Fray. Et donc tout au long de ces écoutes, ils et elles vous feront découvrir le métier de l'éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif, et tout ça à travers différents concepts spécifiques du métier. Alors ça peut aller du mentor en passant par le référent, l'implication ou encore l'engagement. Je vous souhaite un très bel été et une bonne écoute.
À travers ce podcast, nous essayerons de comprendre la notion d'engagement dans la pratique de l'éducateur spécialisé. De quoi s'agit-il concrètement et de quelle manière se matérialise-t-il dans son quotidien? Nous le découvrirons au moyen de propos tenus par des professionnels de terrain.
Vous allez d'abord découvrir ce que l'engagement évoque chez les individus via un micro-trottoir. Ensuite, vous aurez l'occasion de découvrir ce que plusieurs acteurs de terrain pensent de l'engagement dans le métier d'éducateur spécialisé.
Ce podcast vous est présenté par trois étudiants de la Haute École Bruxelles-Brabant.
Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans et je suis en troisième éduc.
Bonjour, je m'appelle Pedro, j'ai 25 ans et je suis en éduc 3C.
Bonjour à tous, je m'appelle Arthur, j'ai 21 ans et je suis en troisième éduc C.
Nous vous souhaitons une agréable écoute.
Promesse. Personnel.
Mariage.
Loyauté.
Dévouement.
Fidélité.
Décision.
Loyauté.
Avoir des valeurs.
Le futur.
La jeunesse.
La fidélité.
Alors, j'ai 20 ans, je suis en dernière année à la H2B en éducation spécialisée. Ça fait 3 ans que je travaille à la Cité Joyeuse en tant qu'étudiante, donc je pense pouvoir répondre un petit peu à ta question.
Pour moi, l'engagement, c'est ce envers quoi je me suis engagée. Donc, l'institution, les jeunes, l'équipe, c'est ce que je vais donner de ma personne pour répondre aux besoins des autres, les tâches que je vais effectuer pour l'équipe. Donc, par exemple... les rendez-vous médicaux, les rangements pour mes jeunes, c'est l'accompagnement au quotidien. Et parfois, je pense même dépasser mes propres limites pour respecter mon engagement envers tout ça. Je vais donner trop de ma personne par moment. Par exemple, pour mes jeunes, je veux tellement être engagée que je vais rester plus longtemps au travail alors que je finis à 20h, par exemple, et je vais rester jusqu'à minuit. Ou quand je suis chez moi, ça va m'appeler du travail parce qu'il y a un problème. Et tellement que je suis engagée envers eux, je vais revenir au travail, même si je ne travaille pas. Et c'est plein de choses comme ça. Et parfois, au quotidien, je pense que c'est un peu compliqué, que je devrais prendre un petit peu de distance avec ça. Un jour, pendant l'été, on avait une journée assez compliquée parce que les jeunes étaient un petit peu compliqués. Et du coup, j'avais déjà fini plus tard que prévu parce qu'au moment des couchers, c'était un petit peu la galère. Et je me rappelle qu'en partant, une de mes jeunes m'a dit qu'elle allait prendre sa douche. Donc moi, je finis ma journée, je badge, je pars. Il est presque 22h, alors que je finissais à 20h. Et vers minuit, je reçois un appel de l'éducateur de nuit qui me dit qu'il ne trouve pas la jeune en question qui avait été prendre sa douche et qu'il avait peur qu'elle soit tombée dans la douche. Donc moi, il me dit ça. Ça m'inquiète. Donc je pense que là, j'ai pris mon engagement à cœur et je suis retournée sur mon lieu de travail pour aller voir si la jeune était tombée dans la douche. Au final, elle n'était même pas partie se laver. Elle était enfermée dans un autre local en train de jouer à la Switch. Donc, ça m'avait un petit peu énervée d'être revenue sur mon lieu de travail pour ça. Mais en même temps, j'aurais pas pu aller dormir comme si rien n'était, sachant la journée qu'on avait vécue et qu'il aurait peut-être pu arriver quelque chose à cette fille et que l'éducateur ne réagissait pas.
«
Je m'appelle Laure et ça fait 3 ans que je suis étudiante à Defray. Je me suis inscrite dans cette option pour travailler avec les personnes âgées. Et après avoir fait quelques stages, je pense que j'ai un peu changé et que je me dirigerai plus dans le secteur du handicap. L'engagement, je dirais que c'est pouvoir accompagner ces personnes dans la vie de tous les jours. C'est s'impliquer dans leur quotidien, mais aussi donner de sa personne pour être présent dans la vie des autres. Avec le peu d'expérience pratique que j'ai, je dirais que ça se matérialiserait dans la façon... Se matérialiser dans le peu de pratique que j'ai eu sur ces quelques années en tant qu'étudiante, je dirais que c'est pouvoir être moi-même et pouvoir être à 100% moi dans la réalité avec les obstacles institutionnels, personnels ou plein de choses qu'on peut rencontrer. C'est pouvoir être là malgré tout ce qui peut se mettre face à nous.
En dernière question, du coup, par rapport à cela, j'aimerais te demander, est-ce que tu as déjà vécu une situation liée à cet engagement que tu définis ?
J'ai pas de situation concrète à te donner, mais je dirais que le stage est une certaine forme d'engagement, puisque on rencontre des lieux de stage, on se présente en tant qu'étudiant pour remplir les tâches et les fonctions qu'on nous demande de faire. Pour moi, c'est une forme d'engagement d'y être en étant professionnel, en ayant une bonne posture. C'est notre manière en tant qu'étudiant, en tout cas pour moi, d'être engagé dans mon cursus scolaire et dans ma pratique éducative.
Si maintenant, je te poserais une question qui clôturera du coup notre petit entretien et que je te demanderais dans cet audio de te laisser un message pour ta future toi qui sera une éducatrice de terrain. Qu'est-ce que tu aimerais te dire au niveau de cet engagement que tu aimerais réécouter dans peut-être 5 ans? Qu'est-ce que tu aimerais te laisser comme message?
Je dirais que mon engagement actuel ne sera pas le même dans quelques années. L'engagement sera changé en fonction du lieu le lieu de travail, et qu'il changera sûrement tout au long de ma carrière. Je pense qu'une des qualités de l'éducateur et de l'éducatrice, c'est de pouvoir se remettre en question, et donc se remettre en question sur son engagement, pour moi, c'est pareil. Donc, à mon avis, si je dois me laisser un message pendant quelques années, je dirais que mon engagement, il n'est pas constant et stable, et qu'il est prêt à évoluer à chaque fois.
Alors, nous nous retrouvons avec notre première éducatrice de terrain. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots, s'il te plaît ?
Oui, bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 24 ans et je suis éducatrice dans une AVJ à Uccle.
Pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est une AVJ, bien sûr, tu peux nous expliquer en quelques mots, des mots simples pour aider à la compréhension. Mais du coup, qu'est-ce que c'est une AVJ ?
Oui, alors une AVJ, c'est une aide à la vie journalière. Et dans mon AVJ à moi, on a 12 résidents qui sont porteurs d'un handicap physique. Et alors, ils font appel avec un bouton d'appel à plusieurs demandes de leur quotidien et on est là pour les aider.
Ok, d'accord. Et du coup, dans cette AVJ, tu es éducatrice maintenant depuis combien de temps ?
Ça va faire 3 ans en novembre.
Ok. J'aimerais te poser une question parce qu'en fait, notre podcast va parler, comme je te l'expliquais, de l'engagement. Du coup, j'aimerais te demander, pour toi, en quelques mots, une définition brève, qu'est-ce qu'est l'engagement en tant qu'éducatrice spécialisée ?
Pour moi, l'engagement en tant qu'éducateur, c'est pas juste accompagner le résident en tant que tel dans son quotidien, c'est vraiment être présent avec la personne dans tout ce que ça implique. C'est de pouvoir s'adapter à chaque personne, à ses capacités, à son rythme, mais aussi à ses envies, par exemple. C'est de croire en cette personne, même si elle doute. Et c'est aussi pour moi défendre sa dignité et son autonomie, parce que la personne reste actrice de sa vie, de son quotidien, malgré son handicap. Et je trouve que c'est super important d'être derrière ces personnes dans toutes ces petites choses.
Ok,
Merci pour cette réponse. On voit que c'est une réponse vraiment ciblée sur ton secteur.
Oui.
Parce que tu parles d'être acteur de sa vie. Mm-hmm. On entend beaucoup ça, hein, des personnes qui sont en situation de handicap et qui sont limitées à ça. Donc tu rejoins un peu cette idée dans la définition de l'engagement. En deuxième question, j'aimerais te demander, du coup, ben, comment cet engagement que tu nous définis vient se matérialiser dans ta pratique ? Parce que bien évidemment, je me dis qu'il y a sûrement des choses au quotidien que tu fais qui nous développent cet engagement.
Ben, pour moi, l'engagement, en fait, il se voit dans le quotidien. En fait, c'est tous les jours un petit peu. Ça peut être tout bête, mais ça peut être juste de prendre le temps, par exemple, quand nous, on en manque. Parce que oui, des fois, le boulot, ça va vite et nous, peut-être, on n'a pas le temps. Mais la personne en face en a peut-être besoin et je trouve que c'est déjà un signe d'engagement. Et ne pas juste répondre à ses demandes pour aller vite et vraiment prendre le temps. C'est aussi être très attentif à ce que la personne ne dit pas, en fait. Parce que ce qu'elle dit ou ce qu'elle pourrait dire, c'est facile à entendre. Mais des fois, on peut remarquer un changement d'humeur, de fatigue, de tristesse. Et alors, je trouve que c'est aussi une forme d'engagement, une sorte d'engagement. Parce que la personne ne parle pas, nous on comprend, donc on est engagé avec cette personne parce qu'on la connaît. Donc c'est dans toutes ces petites choses du quotidien.
D'accord. Et du coup, bah, par rapport à toutes ces petites choses du quotidien, bien sûr, nos questions ont un petit fil conducteur. Hein, on essaye de tirer quelque chose de vos pratiques, parce que vous êtes plusieurs à être interrogés pour ce podcast. Du coup, ma troisième question serait, est-ce que tu as déjà vécu une situation, alors je m'en doute qu'il y en a plusieurs, mais est-ce qu'il y a une situation que tu aimerais développer avec moi aujourd'hui par rapport à cet engagement, où cet engagement a été lié à cette situation ?
Ben oui, il y en a plusieurs, je pense que tous les jours on en a, parce qu'on est justement toujours engagé avec ces personnes, mais là comme ça, j'ai une petite histoire d'il y a quelques semaines, une bénéficiaire à moi, qui est porteuse de sclérose en plaques, veut voyager, sauf que au vu de sa situation, ça reste très compliqué, mais c'est totalement possible. Et elle veut voyager, elle veut aller en Espagne. Et alors, tous les jours, elle demande d'aller dans une agence de voyage. Et du coup, moi, je suis derrière elle, sur ça à 100%. Et on a été chercher des flyers, elle se renseigne. Je demande à son fils aussi de se renseigner de son côté et tout, de ce qu'on peut ou pas faire. Et peut-être que ça ne se fera jamais, mais au moins, on fait la démarche et elle est contente. Et pour moi, c'est un exemple d'engagement dans mon quotidien.
D'accord. Est-ce que par rapport à ça, tout à l'heure, si je reprends bien les mots que tu as dit, n'hésite pas à me couper ou à m'interrompre si tu trouves que je ne suis pas en accord avec ce que tu disais. Mais tu parlais dans ta définition, du coup, de minimiser la personne à l'handicap, mais qu'elle reste actrice de sa vie. Et du coup, ça me vient, je lis ceci, à la situation que tu es en train de m'expliquer, que tu me développes. Tu me parles que cette bénéficiaire veut faire ça. Et moi, je trouve quand même que c'est très fort lié, parce qu'elle reste alors actrice de sa vie. Tu soutiens cette idée ?
Oui, oui, totalement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est derrière elle à 100%. Oui, elle reste actrice de sa vie, mais au vu de sa situation, c'est compliqué qu'elle gère ça à 100% toute seule. Du coup, nous, on sert à ça et c'est pour ça qu'elle est dans la VJ. Mais c'est clair que si elle a envie de voyager, pour moi, elle a totalement le droit. Et voilà, donc oui, elle est totalement actrice de sa vie par rapport à ça et par rapport à tous ses choix d'ailleurs. Tout ce qu'elle fait dans son quotidien, c'est elle qui choisit et rien n'est jamais imposé.
D'accord, bah merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais ajouter, un message à faire passer
Oui, oui, je peux parler à tous les éducateurs ou même les éducateurs en devenir. Quel que soit votre public, prenez toujours le temps, soyez toujours à l'écoute, c'est très important. Et voilà.
D'accord.
Bonjour à tous et à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec un nouveau professionnel. Est-ce que tu peux te décrire en quelques mots ?
Bonjour, je m'appelle Dylan. J'ai 25 ans. Je suis éducateur dans l'école fondamentale Émile Jacquemin, maternelle et primaire. Je m'occupe principalement de la section primaire des enfants âgés de 6 à 12 ans.
Ça fait combien de temps que tu exerces le métier d'éducateur ?
Ça fait 3 ans et demi, mais j'ai pas commencé à Jacquemin, j'ai commencé à Stiles, qui est situé à Laeken à Boxtel, et pendant 1 an. Et ensuite, on m'a proposé une place à Jacquemin, donc ça fait 2 ans et demi que je suis à l'école Jacquemin.
Donc si je comprends bien, depuis le début de ta carrière, tu travailles essentiellement avec des enfants âgés de 6 à 12 ans.
Pas tout à fait. Il nous arrive de travailler parfois dans la section maternelle, notamment quand il y a des absents de collègues. Ben, dans ce cas-là, on se doit d'être là aussi pour eux. Donc on est parfois en maternelle. C'est rare, mais ça arrive. Même si on est assigné, par exemple moi je suis assigné en primaire, ben je pourrais demain être en maternelle parce que un collègue est malade et qu'il faut quelqu'un en maternelle.
Ok, d'accord, je vois. Donc tu sais que notre émission va tourner autour de ce thème qui est l'engagement. J'aimerais savoir comment tu définirais l'engagement à travers ton métier justement.
Je pourrais définir l'engagement par la relation que j'ai avec eux, où on est dans la relation et je suis à leur écoute. J'ai remarqué que les enfants peuvent être stigmatisants comme étant enfants de riches, mais c'est pas pour autant qu'ils ne méritent pas d'être écoutés et guidés.
Accompagnés. Ok. Comment se matérialise justement l'engagement dans ta pratique?
L'engagement se matérialise dans la relation avec les élèves, par exemple les échanges, les progrès que je vois au fil du temps et la confiance qui se construit avec eux. C'est dans ces moments que je vois que l'engagement que je mets auprès d'eux porte ses fruits et c'est chouette.
Ok, d'accord. Et y a-t-il des situations où cette notion d'engagement elle est plus difficile, plus complexe à maintenir pour tous tes élèves?
Oui, notamment quand il y a un conflit dans un groupe où je dois essayer de comprendre les deux parties et rester neutre. Pour savoir le ou les raisons qui amènent à ce conflit et de trouver un compromis pour désamorcer ce conflit.
Ok, très bien. Et écoute, moi j'aurais une question pour toi. Est-ce que tu aurais des conseils justement pour des futurs éducateurs et comment est-ce qu'ils pourraient maintenir l'engagement dans leur métier?
Si je devais leur donner un conseil, c'est de rester à l'écoute, parce que parfois les apparences sont trompeuses. Moi-même, dans mon expérience de travail, j'en ai fait les frais. Et parfois, c'est juste des enfants qui ont besoin d'être accompagnés, besoin d'être compris. Et une fois que tu le comprends, c'est ça qui est beau, c'est que tu vois une évolution, tu vois un progrès derrière cet élève et t'es fier de ce que tu accomplis malgré les apparences, les jugements de ce qu'il y a autour.
Bonjour, est-ce que tu pourrais te décrire en quelques phrases?
Je m'appelle Dama Bayen, je suis éducateur en SRG depuis 10 ans maintenant à UCLE. J'ai fait une formation d'éducateur A1 au Parnasse et donc...
Ok, super. Merci pour ta réponse. On va pouvoir passer à la première question. Évidemment, il y a plusieurs définitions bien précises de l'engagement et j'avais envie de connaître ta propre définition de l'engagement.
Alors l'engagement, pour moi, elle a plusieurs points. D'abord au niveau des enfants, un engagement auprès des enfants, ça veut dire être disponible, être à l'écoute, être dans la compréhension de leurs souffrances psychiques, physiques des fois aussi. Ça c'est déjà dans un premier plan. Dans un deuxième plan, c'est au niveau de l'équipe, être engagé, arriver à l'heure, respecter les collègues, respecter l'avis de la direction, même si des fois on ne peut pas nécessairement être d'accord avec tous les choix qui sont pris en compte. Mais voilà, on fait un travail, on doit pouvoir entendre les décisions de tout le monde. Et donc, je voulais parler aussi au niveau personnel. Il faut avoir un engagement dans le métier d'éducateur, notamment une formation, suivre des formations régulièrement pour rester informé voilà, de l'évolution du métier et de la société en elle-même. Aussi dans notre réflexion, un engagement dans notre travail, sur nos choix qu'on va poser, ce qu'on met en place avec les enfants, ce qu'on met en place avec l'équipe, avec les collègues. Une réflexion d'équipe aussi. Et je dirais aussi au niveau de la déontologie, qu'on doit être quand même assez engagé à ce niveau-là, de respecter le secret professionnel. Okay. J'ai une bonne définition, je pense.
Oui, elle est bien fournie, en effet. On va pouvoir passer à la deuxième question maintenant. J'avais envie de savoir comment l'engagement se matérialisait dans ta pratique. Et si tu veux faire des liens entre ce que tu vis au quotidien et ta pratique, c'est bienvenu.
Oui, bah j'ai plusieurs définitions, enfin plusieurs liens. Bah déjà au niveau des formations, nous on fait des formations chaque année. Et je pense que c'est important de faire des formations qui sont en lien avec le public. Voilà, moi j'ai une formation sur le travail sur l'école des devoirs avec les enfants. Là, il y a pas longtemps, on a des problèmes d'addiction avec les enfants, et donc j'ai été faire une formation sur les addictions pour essayer d'ouvrir mon esprit, d'ouvrir ma réflexion à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment au niveau de mon engagement personnel. Maintenant, au niveau des enfants, bah oui, il y a une réflexion toujours à avoir, pas une réflexion, mais il y a un lien à avoir avec les enfants, un engagement à avoir avec eux dans leur souffrance psychique et dans toutes les situations du quotidien qui se passent avec eux. On essaye toujours de réfléchir à des activités qui vont leur faire du bien, qui vont leur sortir un petit peu de l'institutionnalisation. Et donc tout ça, c'est un engagement à avoir avec eux, aussi dans le lien qu'on va créer avec eux tous les jours à l'institution. Vis-à-vis des moments de discussion aussi, vis-à-vis des moments de repas. Voilà, on n'est pas des éducateurs qui restent assis sur une chaise à regarder le temps qui passe. On crée du lien avec eux et c'est ce qui leur fait grandir et c'est ce qui est important pour eux. Et donc, je pense que c'est hyper important.
Ok, merci pour ta réponse. On va pouvoir désormais passer à la dernière question. J'imagine que tu en as rencontré plusieurs, mais est-ce que tu pourrais me raconter une situation bien précise que tu aurais vécue et qui serait effectivement liée de près ou de loin à cette valeur de l'engagement?
Voilà, au niveau d'expérience sur l'engagement, moi je pense que pour moi, ce qui est le plus dur des fois, c'est dans des situations qui sont compliquées avec des enfants qui vivent tellement de souffrances psychologiques dans leur famille et que du coup, ça déborde, hein, clairement, ça déborde au point qu'il y en a des violences à l'institution, etc. Et ben, c'est de pouvoir se lever le matin et de se dire, je vais dans ce boulot-là et je vais ce boulot-là pour me dire que ce que je vais leur donner aujourd'hui, ça va leur permettre de grandir pour que peut-être qu'à 18, à 19, à 20 ans, ils deviennent des adultes responsables qui ont une vie heureuse et épanouie. Et que même si l'instant présent, on arrive au boulot et des fois on subit des violences des autres enfants qui se cognent la tête contre des murs, qui font des choses comme ça. Malgré tout, malgré ce moment qui est très difficile à passer, on a un appel peut-être 10 ans, 15 ans plus tard qui va nous dire voilà Damien, maintenant j'ai deux enfants, ça se passe bien, j'ai un métier. Et donc je pense que c'est ça l'engagement pour moi, c'est de se dire des fois on vit des moments difficiles mais il y a un après et cet après pour eux il peut être magnifique et c'est pour ça qu'on fait ce métier-là.
Merci Damien. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à la fin de cet enregistrement? Un conseil à faire passer?
Ouais, un conseil, je dirais que justement, comme je viens de dire avant, le métier d'éduc, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. Il y a des moments moins bien, il y a des moments très chouettes aussi, il y a des moments en jeu avec les enfants, etc. Je pense qu'il faut pouvoir avant tout créer du lien et créer du lien avec les enfants. Ça permet de voir ce métier avec plein de couleurs, avec des lunettes arc-en-ciel, comme on en parle souvent dans l'institution. Donc vraiment, en tant qu'éduc ou de futur éduc, j'ai envie de vous pousser à créer du lien avec les enfants, à mettre en place des activités, parce que l'éducateur en tant que tel, c'est pas un éducateur qui reste assis à une chaise, c'est un éducateur qui va à la rencontre des jeunes, qui vont mal, qui ont envie de nous péter à la gueule des fois, hein, pour utiliser des mots vulgaires, hein, mais c'est leur vocabulaire à eux aussi, et de vivre des choses avec eux, et en fait, après, ça nous revient positivement, ou pas, mais au moins, on a planté une petite graine qui feront que plus tard, ce seront, j'espère, des adultes formidables.
Pour conclure, on voit bien que l'engagement évolue entre la formation et la réalité du métier. En tant qu'étudiant, on a cette fraîcheur et une vision souvent idéale de l'accompagnement. Mais sur le terrain, l'engagement change de forme, il devient plus concret et s'adapte aux contraintes du quotidien pour tenir sur la durée.
C'est aussi un engagement qui devient plus technique. Une fois en poste, le professionnel continue de se former sur des thématiques très précises, directement liées à son public. On n'est plus dans la théorie générale de l'école, mais dans une recherche constante d'outils spécialisés pour être en mesure d'être plus efficace auprès des personnes qu'on accompagne.
Et puis, il y a la dimension collective. L'étudiant a parfois une vision très personnelle de son action. Sur le terrain, on découvre que l'engagement ne vaut rien s'il est isolé. Le vrai défi du professionnel, c'est de construire cette cohérence éducative avec l'équipe. C'est savoir accorder ses valeurs avec celles de ses collègues pour que l'usager ait un cadre solide et non des interventions éparpillées. Finalement, si l'étudiant est le moteur de l'engagement, on pourrait dire que le professionnel en est le pilote. L'un apporte l'énergie, l'autre la direction et la technicité. On espère que ce podcast vous aura permis de voir que peu importe où l'on en est dans sa carrière, s'engager, c'est avant tout accepter de ne jamais finir d'apprendre. Merci à tous de nous avoir écoutés.
Lettre à la République, à tous ces racistes à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant ces riches ont d'honneur de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration, grâce à elle vous vous êtes gavé jusqu'à l'indigestion. Je crois que la France n'a jamais fait la charité. Les immigrés ce n'est que la main d'œuvre bon marché. Gardez pour vous votre illusion républicaine de la douce France bafouée par l'immigration africaine. Demandez aux tirailleurs sénégalais et aux harkis qui a profité de qui. La République n'est innocente que dans vos songes. Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Mais pensiez-vous qu'avec le temps, les négros mutrés finiraient par devenir blancs? Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet. On ne s'intègre pas dans les ghettos français parqués entre immigrés. Faut être censé comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir depuis l'époque du cartable. Bien que je ne sois pas un crash, je n'ai pas envie de vous dire merci. Parce qu'au fond, ce que j'ai ici, je l'ai conquis. J'ai grandi à Orly, dans les favelas de France. J'ai fleuri dans les maquis, je suis en guerre depuis mon enfance. Narcotrafic, braquage, violence, crime. Que font mes frères si ce n'est des sous comme dans Claire Stream? Qui peut leur faire la leçon? Vous, abuseurs de biens sociaux, détourneurs de fonds, de vrais voyous au constat. Bande d'hypocrites, est-ce que les Français ont les dirigeants qu'ils méritent? Au cœur des débats sans cœur, toujours les mêmes qu'on pointe du doigt dans votre France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable, et c'est en direction des musulmans que tous vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques, et vous attendez de nous qu'on s'écrive vif. noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'autre France déteste. Ce sont les mêmes hypocrites qui nous parlent de diversité, qui expriment leur racisme sous couvert de laïcité. Rêve d'un français unique avec une seule identité, s'acharne à discriminer les mêmes minorités. Face aux mêmes électeurs, les mêmes peurs sont agitées. On oppose les communautés pour cacher la précarité. Que personne ne s'étonne si demain ça finit par péter. Comment aimer un pays qui refuse de nous respecter? Loin des artistes transparents, j'écris ce texte comme un miroir. Que la France y regarde si elle veut s'y voir. Elle verra s'envoler l'illusion qu'elle se fait d'elle-même. Je suis pas en manque d'affection, comprends que je n'attends plus qu'elle-même.